novembre 89. Je crois que c'était autour du 26 novembre, à peu près, 89.
Alors, le 26 novembre 1989, quelques jours après la chute du mur, donc l'époque historique, il n'a rien à voir. Enfin, c'est une date historique quand même. Vous êtes arrivé aux États-Unis. Et là, on vous connaissait un petit peu. Et il y a eu une tentative de séduction réussie, il faut le dire, de Microsoft.
Non, c'est-à-dire que lorsque j'arrive aux États-Unis, d'abord, je commence dans une très, très petite structure. Et c'est une entreprise qui me plaisait. J'étais ingénieur informaticien dans cette entreprise, mais elle était relativement petite. Ce n'était d'ailleurs pas une entreprise informatique, c'était une compagnie d'assurance. Mais j'étais dans le département de l'informatique. Et j'ai passé un certain temps dans cette entreprise. Ce qui m'a retenu de partir de cette entreprise, c'est parce que j'avais entrepris entre-temps des études de finance, MBA, pour faire un MBA en finance, et l'entreprise était prête à payer pour ces études. Donc, je voulais un peu rester loyal à cette entreprise qui m'avait tant aidé. Et soit dit en passant, elle m'avait aussi aidé à obtenir la fameuse green card, les papiers pour pouvoir travailler. Voilà, le permis de séjour pour pouvoir travailler légalement dans le pays. Voilà, j'y suis resté 5-6 ans. Et à un moment donné, j'ai décidé de partir, relever d'autres défis.
Alors là, c'est là que j'en reviens à ma tentative de séduction réussie de Microsoft. Racontez-nous en deux mots, parce que malheureusement, on ne peut pas s'y attarder.
Et avant d'y arriver, c'est-à-dire qu'il y a d'abord le départ pour PricewaterhouseCoopers, dont je suis à PricewaterhouseCoopers en tant que manager informatique, lorsque les dirigeants de Microsoft commencent à me solliciter. Et je dois d'ailleurs dire que ça s'est passé de manière fortuite, parce que je participais à un séminaire à Washington, D.C., c'est-à-dire pas très loin de là où je travaillais. Et j'ai donc rencontré deux managers de Microsoft. Et spontanément, nous avons commencé à discuter technologie, et en particulier de l'Internet. Le hasard a voulu que ce soit à l'époque où Microsoft voulait trouver des techniciens, des ingénieurs pour pouvoir relever le défi de l'Internet. Et on parlait beaucoup d'une entreprise comme Netscape, qui était vraiment pionnière dans ce domaine. Et nous avons donc discuté technologie, nous avons discuté réseau, nous avons discuté Internet. Mes interlocuteurs ont eu l'air de s'intéresser davantage. Et à un moment donné, ils m'ont demandé est-ce que je serais intéressé de changer le monde avec Microsoft.
Tout
simplement. Comme on dit, do you want to change the world with Microsoft? J'ai dit pourquoi pas. Et nous nous sommes séparés comme ça, de manière très, très informelle. On s'est échangé les coordonnées. Une fois que je suis retourné chez moi, moins d'une semaine après, je reçois un appel de Microsoft, de la direction des ressources humaines, qui me dit qu'elle aimerait pouvoir faire un follow-up, comme on dit, un suivi des discussions, poursuivre les discussions que nous avions entamées avec deux ingénieurs. Je ne me souvenais même plus tellement de leur nom parce que je ne m'y attendais pas.
Alors, ils vous ont invité ?
Ils m'ont invité.
Hôtel très confortable ?
Tout à fait, à Seattle, dans un hôtel très, très confortable.
Ils vous ont fait visiter ?
Visiter Seattle, voilà, j'ai vu toutes les montagnes et tout.
Voilà. Et vous avez été séduit, en fait ?
J'ai été séduit par Seattle, encore qu'il pleuvait ce jour-là, c'était peut-être pas leur meilleur jour, mais disons que j'ai été beaucoup plus séduit par l'hospitalité, j'allais dire, des gens de Microsoft. Cet esprit de camaraderie, les gens étaient très très simples, ils avaient des shorts, chemises sans cravate. Ça m'a intéressé beaucoup. Je ne pensais même pas beaucoup à la technologie, mais je pensais un peu à cet esprit décontracté.
Alors, c'est là qu'a commencé une période de 10 ans de travail intensif dans une société. Vous racontez dans le livre le travail dans cette entreprise, l'état d'esprit aussi. Malheureusement, on n'a pas le temps de s'y attarder. Mais en gros, c'est on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an.
Ah oui, tout à fait. C'est là l'esprit de Microsoft. Ce qu'il faut d'ailleurs souligner, c'est que j'ai eu le sentiment tout au long de ces 10 années que c'était spontané, que c'était volontaire. On travaille beaucoup à Microsoft, ça c'est sûr. L'objet de ce livre, il faut bien le rappeler, c'est d'encourager les jeunes qui se cherchent ou qui m'ont interrogé sur mon parcours, qui m'interrogent de temps à autre.
C'est pour ça que vous êtes dans cette émission, Jacques Bonjaou, parce que vous êtes un exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure.
J'espère, si je suis un exemple, ça fait plaisir de le savoir. En tout cas, j'écrivais le livre pour encourager les jeunes à pouvoir atteindre leurs ambitions et aller même au-delà de ce que j'ai fait. Mais il faut dire que Microsoft n'est pas pour tout le monde, dans la mesure où vous pouvez être un jeune brillant avec des titres universitaires impressionnants, il ne suffit pas d'être brillant. C'est-à-dire que c'est incontournable de travailler lorsqu'on est à Microsoft.
Ça vaut pour tout.
Voilà, tout à fait, ça vaut pour tout, effectivement. Il y en a qui pensent qu'ils ont peut-être accumulé un capital intellectuel, ils pourraient peut-être commencer à s'en servir pour s'en sortir. Non, tout le monde doit travailler. Il n'y a pas d'autre solution.
Alors, ce qui est intéressant, Jacques Bonjavo, c'est que tout en travaillant à Microsoft, vous n'avez jamais cessé de vous intéresser à l'Afrique.
Non, pas du tout. En fait, l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté d'intégrer Microsoft, en fin de compte, c'était parce que je me suis dit qu'il y aurait cette possibilité, étant donné l'envergure de la compagnie qui est installée pratiquement dans tous les pays du monde, il y aurait cette possibilité de m'en servir, de l'utiliser au sens noble du terme pour pouvoir aider l'Afrique. Il se trouve que cela a très bien marché. C'est même allé au-delà de mes espérances parce que c'est en ce moment justement que je suis sollicité par la Banque mondiale pour le projet de l'Université virtuelle africaine.
Donc vous avez travaillé avec cette entreprise Microsoft en Afrique?
Oui, j'ai commencé au siège social après 6 ans, 7 ans. J'ai décidé d'aller en Afrique travailler à Microsoft pendant un an. Et j'ai profité de cette occasion pour lancer certains projets en Afrique.
Et une académie aussi, une école?
Une école, IT Academy, effectivement, c'est une académie de Microsoft qui consistait à former les étudiants dans les universités en matière technologique. Et je dois dire que ce qui m'a beaucoup servi en Afrique pendant cette période, c'était l'approche que j'avais choisie qui consistait à travailler directement avec les universitaires, sinon avec les étudiants.
Alors, vous avez participé aussi, Jacques Bonjavo, à cette aventure qui continue d'ailleurs d'université virtuelle. On peut dire en deux mots sur cette
excellente idée
et le rôle que vous y jouez.
Tout à fait. Comme je l'ai dit, mon rôle à l'UVA, l'Université virtuelle africaine, j'ai été sollicité par la Banque mondiale vers 2000. Alors que j'étais à Microsoft justement pour pouvoir lancer l'UVA en Afrique. Je dois quand même souligner que le père de l'UVA, c'est Étienne Baram-Chamage. C'est un Burundais qui travaillait pour la Banque mondiale et qui a lancé cette idée. Alors, à partir d'un certain temps, il était question de la porter à la vitesse supérieure et j'ai donc été sollicité dans ce cadre-là. Voilà, et j'ai accepté l'offre. D'abord, la banque me sollicitait pour aller diriger l'UVA en Afrique. J'ai fait valoir qu'en restant chez Microsoft, je pourrais peut-être avoir un impact beaucoup plus positif sur l'UVA. Et j'espère que ça a été le cas. Concrètement, nous avons créé des instituts UVA dans plus de 25 pays. Et nous avons eu plus de 50, une cinquantaine de centres UVA en Afrique. Et j'estime que cela est du concret. Il faut aussi dire que l'UVA a des challenges. Il y a encore des défis à relever. Il faudrait qu'on puisse pérenniser ce succès. Je ne suis plus président du conseil d'administration de l'UVA. J'avais décidé de passer la main après avoir passé 4 années intenses à ce poste. Mais avec la nouvelle structure, j'espère que l'UVA va continuer sur cette lancée.
C'est l'université sur Internet, en fait.
Tout à fait, l'université sur Internet. L'éducation à distance, à travers l'Internet et le satellite.
Alors, vous avez créé maintenant, je vois que le temps passe décidément, Jacques Bonjavo, votre propre entreprise, une start-up?
Oui, tout à fait.
Dans la Silicon Valley?
Oui, en fait, je suis l'un des fondateurs, si vous voulez, de cette entreprise qui a été lancée, Genesis, effectivement, Genesis Futuristic Technology, pour être complet. Elle a été lancée à l'origine par deux jeunes Indiens de l'Institut indien de technologie, qui est un peu une espèce de polytechnique de l'Inde. Et ils m'ont sollicité à un moment donné parce qu'ils avaient besoin d'un manager qui a de l'expérience. Et j'ai estimé que c'était un projet très, très intéressant qui me permettrait de changer d'air, de faire bouger les choses autrement, parce que je ne vais pas insinuer qu'à Microsoft les choses ne bougeaient pas, mais les faire bouger autrement. Ouais. Voilà.
Merci Jacques Bonjavo. Je précise que vous serez à Abidjan le 10 septembre prochain, à Yaoundé le 13, pour dédicacer votre livre. Ils seront sans doute nombreux, les lecteurs, à venir vous voir, parce qu'encore une fois, votre itinéraire est une source d'inspiration pour quiconque veut réussir sa vie.
Merci à vous. C'était un plaisir de venir à votre émission.
Vous avez donc écrit « Mes années Microsoft, un Africain chez Bill Gates », un livre publié aux éditions Comos Publishing. Signe particulier avec Véronique Fournier. Merci à Anne Fauquemberg et Gersand Leclerc. Réalisation Marc Delouvrier. Technique Raphaël Cousseau.
do la mio oa oa e oa 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 e oa na bodi non le va mo ma se oa 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 na bodi non le va mo ma se oa oa na mala so odia poa mo ma miantolo na mala so lo batate mo di monco to di longa la buine otra no kakanemba mo ti boye Monty boy, Monty boy. Be a sonner, not on the way, be a sonner. Be a sonner, not key away, be a sonner. Be a sona na tondi wae, be a sona. Be a sona na kie wae, be a sona. Wale wemba mnyange mwami we pendu tuwe. Be a sona na tondi wae, ndola mbale. Wale wemba mnyange mwami we pendu tuwe. Be a sona na kie wae, ndola mbale. Be a sona na tondi wae, be a sona. Be a sona na kie wae, be a sona. Be a sona na tondi wae, be a sona. Ando la mia, wo 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 oh 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 singa. Na mateno wa we 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 singa 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 eh singa eh musia mwa mie dolo wa na budi na mule na mwa mwese we 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 Malasso na malasso
Nous laissons tout pour un voyage. Moi, chaque instant, tout peut basculer dans l'autre sens. Soupe de cargo, marque de papier, coffre de voiture, passe rapace, contrôle de police.
Plongé au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu, vous trouvez du nouveau.
Tous nous voulons partir
ailleurs là-bas.
Arrivé à Babylone, Eldorado, là-bas ailleurs, d'un coup le rêve se défait. Clandestin sans papier, sans un sou, la vie est sombre. Le monde est étroit, et la famille au pays qui attend. L'argent qui jamais nulle part ne poussera sur les trottoirs.
Plongé au fond du gouffre, enfer poussière qu'importe,
au fond de l'inconnu,
vous trouvez du nouveau.
Tous nous voulons partir
ailleurs là-bas.
L'argent pousse sur les trottoirs. Comme il n'y a rien chez nous pour nous, nous n'avons rien à perdre. Est-il possible que le monde change? Est-il possible de changer la vie? Pourrons-nous retourner la chance? Si la fortune nous frôle, nous l'attraperons. Est-il possible de changer le monde? Est-il possible de changer la vie? Nous retourner la chance. Si la fortune nous frôle, nous l'attraperons.
Plongé au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu, vous trouvez du nouveau.
Cette dernière heure vous a été présentée par Radio France Internationale en collaboration avec CKIA FM, le 88.3.
Tout comme l'alcool au volant, la conduite sous l'effet de la drogue est risquée. Nos réflexes et notre jugement sont alors grandement affectés, voire carrément absents, quoi qu'on en pense. Après avoir consommé, les risques d'avoir un accident mortel sont de 2 à 5 fois plus élevés que si on est sobre. Et c'est encore pire quand on mélange drogue et alcool. On ne risque pas sa vie et celle des autres pour le trip. On est tous responsables de notre conduite.
Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Message aux décideurs en entreprise.
Produits alimentaires Vio, une entreprise de Laval, a fait un choix d'affaires rentable et responsable en participant au programme Système industriel d'Hydro-Québec. Monsieur Yannick Desmarais, ingénieur d'usine, nous en dit davantage.
Dernièrement, on a construit une nouvelle usine pour soutenir la croissance de notre productivité. C'est dans un souci d'économie d'énergie qu'on a choisi des systèmes de réfrigération et de récupération de chaleur des plus performants. On a soumis deux projets à Hydro-Québec et on a reçu un appui financier de plus de 340 000 $ pour la réalisation de nos travaux. Notre utilisation optimale de l'électricité nous permet maintenant de réduire nos coûts de production et de conserver notre position concurrentielle dans le marché de l'agroalimentaire. On est vraiment satisfait là, de tout le soutien financier et technique qu'Hydro-Québec nous a apporté. Et c'est pas fini, on a d'autres projets sur la table.
Pour en savoir davantage sur le programme Système industriel, visitez la section Affaires du site Internet d'Hydro-Québec.
Mieux consommer pour mieux performer. Un message d'Hydro-Québec.
«
ici Larry Hodgson. Vous aimez les plantes? Vous aimez le jardinage? Venez me rejoindre tous les mercredis à 10h à l'émission Le Jardinier Paresseux sur les ondes de CKIA FM 88,3. Bon jardinage!
Tous les lundis à 18h, écoutez Homologue, votre émission d'information sur la diversité sexuelle avec Normand Boudreau et Florent Tanlet. Actualités commentées, différentes chroniques de société, d'histoire, de découvertes inédites, d'art et de culture sont au programme. Homologue, c'est donc l'émission à ne pas manquer tous les lundis soirs à 18h sur les ondes de CKIA 88,3 FM.
Bonjour, ici c'est Daran, vous êtes à l'écoute de CKIA FM 88.3 à Québec. Tendez l'oreille, on parle de vous et en bien, j'espère.
On se frotte les yeux, on émerge, on se réveille, on rassemble des bouts, on tire sur les rênes d'une mémoire qui titube entre quelques scènes. On regarde autour de soi la chambre d'hôtel.
Flageolus, je m'ennuie tellement. Les jeux du stade ne m'amusent plus, c'est toujours la même chose.
Mais pourtant, votre magnifique flatulence, nous avons fait venir des Gaulois pour vous divertir.
Mamma mia, mais qu'est-ce que c'est cette horde de barbares puantes font-elles dans mon arène? Flageolus, appelle la garde et que l'on nettoie tout ça.
Brutus, oh grande chose molle. Les gardes ne sont pas encore revenus de leur bain chaud et ils refusent catégoriquement de sentir le bouc. La dernière fois qu'ils se sont battus contre les Gaulois, ça a pris 2 semaines pour tout désinfecter dans la garnison.
Quoi? Ils ne veulent pas se battre? Mais... Apporte-moi cette coupe de vin, l'émotion me déshydrate et j'ai quelques ballonnements qui m'empêchent de bouger. Mais comment ils ne veulent pas se battre alors? Envoie les lions, au moins eux ne font pas la fine bouche.
Oh, splendide tartine et de margarine, les lions ont accompli leur forfait, mais... Que doit-on faire avec les barbares?
Mais bon sang, sur qui as-tu envoyé les lions misérables?
Sur la garde, ô jacuzzi de l'amour baigné dans la friture, comme tu me l'avais demandé.
Oh, ça suffit maintenant. Bon, pousse mon matelas jusqu'à l'extérieur, que j'agisse au plus vite. Attention, bougre d'abruti! Ok, bon. Nous voilà maintenant en place. Envoie la cavalerie anéantir ce ramassis d'incultes et qu'on en finisse. Nous sommes l'armée de César et nous n'allons pas nous faire emmerder par une bande d'analphabètes poilus. Et puis, tournez-moi deux dans le bon sens, je ne vois rien.
Excusez-moi, votre boulette de steak aromatisée aux fines herbes. C'est fait! Les cavaliers ont décimé les affreuses choses. Les gladiateurs voudraient commencer à s'entretuer. Est-ce que je dois les faire entrer?
Pourquoi pas? Peut-être ont-ils des choses intéressantes à présenter aujourd'hui. Soulève-moi la tête que je puisse les voir au moins.
Oh, Brutus Maximalus! Ceux qui vont mourir te saluent! Aujourd'hui, pour te divertir, nous parlerons du banquet de Bourgogne qui a eu lieu en fin de semaine. Éric Raymond, créateur de Moosebooze, nous parle de zombies. Mathieu Place, tout droit sorti des catacombes de Rome, nous entretiendra de jeux vidéo rétro. Et bien sûr, nous te conterons toutes les nouvelles insolites de la semaine et les événements spéciaux qui s'en viennent.
Flageolus, fais patienter les lions. Je veux au moins voir à quoi ça va ressembler.
Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah!
Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Et vous écoutez bel et bien Puissance Maximale, votre magazine ludique, votre fanzine hebdomadaire sur le domaine du jeu. Bonjour Sébastien.
Bonjour à tous, bonjour à toi.
C'est François Gécouillard qui vous parle de jeu et aujourd'hui on va commencer par vous parler du banquet de Bourgogne, même du grand banquet de Bourgogne, puisqu'il s'agit d'un grand banquet où on peut s'empiffrer à satiété.
Féodal, médiéval en fait pour être plus précis, une reconstitution de ce qui se passait à l'époque. En fait, on n'a pas tout à fait su c'était quoi les époques parce qu'elles s'échelonnent. Oui. Il y a énormément de représentants des différentes époques qui sont présents là.
Il faut dire qu'en fait, c'est organisé par l'AMQ, l'Association médiévale Québec. On a reçu Cyril Alexandre la semaine dernière. Donc, qu'est-ce que c'est l'AMQ? C'est une organisation de passionnés, de médiévistes.
Médiévalistes.
Non, c'est médiévistes, j'ai vérifié, c'est okay, bien médiévistes. Et donc, des fanatiques de cette époque, de l'époque médiévale, l'époque des chevaliers, l'époque des trébuchets, l'époque des sièges, l'époque du film là, qu'on a entendu parler à peu près 8 fois. Là.
Le royaume de Dieu.
Le royaume des cieux.
Le royaume de... Oui, c'est ça.
Voilà.
Qui raconte la première quadrate. Oui, c'est ça. Et puis, en plus, on a été extrêmement bien accueillis par l'ensemble de l'entourage. C'est vraiment... ça a été très chaleureux, très agréable. On a mangé... de manière incroyable aussi, avouons-le, là, c'était non seulement bon, oui, il y avait au moins 6 services, je pense. 6, imaginez-vous, vous êtes attablé, vous êtes entouré de gens qui sont habillés d'époque, vous avez juste à côté de vous 2 hommes qui se battent avec une grosse armure et une vraie épée, puis qui font pas semblant de se frapper l'un sur l'autre.
Vraiment sur la gueule.
Et en plus, vous avez droit à 6 services qui ressemblent à des services de ce qu'on pouvait manger à l'époque médiévale.
Ben oui, il faut dire que les plats qu'on a mangés respectaient fidèlement à la perfection
l'époque médiévale. Hein. Donc, le navet était à l'honneur.
Oui, et puis Dieu sait qu'on redécouvre le navet dans ce cas. On s'y attendait pas, mais c'est excellent.
OK, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'entrée, il y avait la bouillasse.
Oui, la bouillasse.
Une espèce de mélange de viande et de choux.
Ensuite, on a eu droit, je pense, je me souviens, à une tourte.
Une tourte qui était une sorte de tourtière du lac Saint-Jean modifiée pour l'époque.
Oui. Après, il y a eu évidemment le bœuf bourguignon parce que c'était la Bourgogne qui était à l'honneur. À l'honneur.
Et il y avait
ensuite, je vais
dessert.
Te laisser continuer parce que je n'ai pas vu les desserts.
C'était tout simplement des crêpes aux pommes, aux fruits, etc.
En tout cas, c'était vraiment très agréable. Et puis la semaine prochaine, évidemment, vous aurez le droit à un reportage sur ce que c'était exactement que ces journées-là et puis cette soirée-là avec tout le monde qui était absolument incroyable, très agréable.
Vous allez sûrement avoir des extraits, peut-être des combats, des tournois à l'épée parce qu'il y avait des tournois, là, des champions se sont affrontés à l'épée de bois, à l'épée réelle, sans contact et à l'épée réelle avec contact. Ça, il faut avoir une bonne armure dans ce temps-là parce qu'on peut se faire mal.
Et il y a même beaucoup de femmes qui participent à ce genre de combat-là. C'est assez incroyable, d'ailleurs.
Ben oui.
On aura sûrement l'occasion d'en rediscuter la semaine prochaine, mais on vous invite tous peut-être à aller sur leur site internet pour aller regarder à quoi ça ressemble et peut-être même aller directement les rencontrer parce qu'ils le méritent vraiment. C'est très intéressant.
Medievale.ca. Sinon, vous pouvez aller aussi sur puissancemaximale.com. Il y a un article sur le sujet avec des photos. C'est merveilleux. Sinon, ben, glissons un mot sur le fanzine qui vient de sortir. Le fanzine numéro 2 de Puissance Maximale qui vient tout juste de sortir en fin de semaine. C'est disponible dans tous les bons gamasins de jeux. Même les cybercafés, les clubs de jeux de rôle. Il y a juste le cégep de Limoilou, malheureusement, que j'ai pas pu aller les porter encore. Mais sinon, ils sont disponibles pour vous, mesdames. Il y a un jeu Moose Booze dedans qu'on peut jouer. La version maxi. Avec un dé qu'on peut plier et jouer avec. On a un reportage sur le Royal Con. Qu'est-ce qu'on a après ça? On a l'histoire de Var qui se poursuit.
On a
poursuit.
Un test aussi pour savoir quel type de geek vous êtes. Ne l'oubliez pas.
Oui, c'est très important de savoir quelle profondeur de geek on est.
Exactement. Sinon, il y a énormément de choses très intéressantes dans ce magazine-là. N'oublions pas que ceux qui veulent venir tout simplement à la station de CKIA, ils pourront aussi trouver les fanzines.
Effectivement, on va en laisser à l'entrée. Et aussi, sinon, ils peuvent en profiter parce que s'ils participent au concours, n'est-ce pas? On va faire le concours du quiz acquis tout à l'heure. Là. Bon, ben si vous passez chercher votre prix et que vous êtes très attentif, restez bien attentif, vous allez pouvoir venir le réclamer à CKIA. Et c'est pas n'importe quel prix. Là, on a d'excellents jeux de société et des CD de Normand Lamour à donner. Donc, ça vaut la peine quand même de rester à l'écoute, je crois, n'est-ce pas? Donc maintenant, on va aller écouter une petite pièce musicale, histoire de prendre une petite pause. Et on revient après avec Éric Raymond de Joubec, qui va nous parler de zombies.
Oui, vraiment. Okay, je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale.
Mon petit bébé d'amour.
Bonjour, je m'appelle Isaac, j'aime beaucoup Maximal Sumo. Fin.
Et vous êtes de retour à Puissance hein? Maximal avec François Gécouillard et Sébastien Léonard. Et nous avons en ligne avec nous Éric Raymond de Rouyn-Noranda. Bonjour Éric. Ça ne fonctionne pas, évidemment. fait que si, on a un petit problème technique ici. Donc, ça marche.
Dommage. On va peut-être passer tout simplement à une autre petite musique. Pourquoi pas? Ah, on va vous enlever, on va vous éviter ce genre de petits désagréments. Et puis, on va tout de suite revenir juste après la petite pause musicale.
Donc, nous sommes de retour à Puissance Maximale. Bonjour, Éric.
Bonjour.
Ça boum.
Oui.
Donc, tu viens nous parler de Mort-Vivant.
Entre autres.
Donc, si on commençait à parler de toi, parce que tu as plusieurs projets là, à Rouyn-Noranda, tu tiens pas mal occupé.
Oui. Et
parle-nous de Zombie Fentex.
Sexy Zombie Fentex, c'est une de mes dernières créations de jeu que j'ai commencé la semaine passée. Puis pour l'occasion, j'ai lancé un concours pour ça, pour gagner en fin de compte la première copie du jeu.
Et je crois qu'il faut apporter ses propres pantoufles de Fentex.
Oui, c'est ça. Pour participer au concours, il faut nous envoyer une paire de pantoufles. J'en ai besoin de 12 en fin de compte pour mettre dans le jeu.
Mm-hmm.
Donc j'attends 12 paires de pantoufles, et ensuite je vais faire le tirage, puis la personne va gagner la première copie du jeu prototype, donc il va avoir ses pantoufles à lui et ceux des autres participants.
Bon, mais c'est merveilleux, mais c'est quoi exactement ce jeu-là?
OK, dans Sexy Zombie Fentex, on incarne un zombie, et mes zombies, eux, ils aiment beaucoup la mode, donc ils se promènent avec des pantoufles de Fentex aux pieds et aux mains. Mais le problème, c'est qu'ils ont de la misère un peu à différencier les paires, ces choses-là. Donc, ils sont tous mêlés.
OK.
Puis on doit, ça joue en deux équipes de trois personnes. Fait que c'est les équipes, on les fait au hasard. Puis on doit essayer de reproduire les patterns, les suites de pantoufles de l'adversaire. Enfin, en gros. Là.
C'est-à-dire, quoi que ce soit, faut que les couleurs fittent?
Oui, il faut que les couleurs fittent parce que là, le problème, c'est que chaque équipe a les moitiés des pantoufles des autres. Mm-hmm. On doit reproduire, vu qu'il y en a dans les mains, fait qu'on doit reproduire le pattern qui sont faits avec les pantoufles dans les mains avec nos pieds.
OK, OK.
On fait ça de l'autre équipe, une à l'autre.
Puis comment est-ce qu'ils font les zombies entre eux pour se piquer des pantoufles en Fentex?
C'est qu'ils doivent juste se déplacer pour mettre en ordre, ça veut dire se croiser les jambes et on devient assez un peu comme un jeu de Twister.
OK, c'est un mix entre un jeu de Twister, des zombies puis des
pantoufles en Fentex, oui.
Mais c'est complètement génial. Dis-moi donc, quelle drogue est-ce que tu consommes pour avoir des idées comme ça?
Aucune. J'aime juste des films de zombies.
Et justement, parlons d'un film de zombies. Vendredi soir, tu vas avoir une grosse soirée cinéma de films de série B de zombies poches.
Sont pas poches. Un film de série B, c'est fait comme ça, en fin de compte. Ça paraît un peu poche pour les gens, les non-habitués. Ouais,
en fait, c'est le summum de l'art.
Oui, c'est ça, c'est voulu que ça soit le même, là. Oui, je vais présenter deux films le vendredi soir. C'est la troisième année que je fais ça. Je présente ça dans ma cour arrière. Et
c'est quoi ces films-là exactement?
Les films de cette année, ça va être Zombie King. C'est des zombies qui viennent dans un réseau de lutte et qui vont se battre pour la ceinture contre des vrais lutteurs.
Donc des zombies lutteurs. Et le deuxième film?
C'est Die You Zombie Bastard. Mm-hmm. Là-dedans, c'est un genre de... C'est difficile à expliquer. C'est un super-héros qui doit retrouver des méchants, puis au travers, il va rencontrer beaucoup de zombies et plein de péripéties.
Dis-moi salut, Eric. C'est Sébastien à l'appareil. Allô?
Allô?
Tu m'entends?
Oui.
Oui, fantastique. Dis-moi, non seulement, en fait, on parle de toi pour deux raisons aussi. C'est non seulement tu es un créateur de génie, dont on vient de se rendre compte que tu venais de sortir quelque chose qui bientôt va sûrement révolutionner les pantoufles en Fentex et sûrement changer tout le pattern des grands-mamans quand elles vont penser à peut-être faire des pantoufles.
Oui.
Mais aussi, tu es notre hôte du week-end pour les Extreme Board Games.
C'est ça.
Et ça, je sais que c'est très gentil à toi de nous recevoir parce que c'est Juan Oranda qui nous reçoit, mais c'est à travers toi, Juan Oranda, qui va être là, présent pour nous recevoir. Et puis, justement, je trouve que c'est intéressant que tu aies pensé à mettre dans ta programmation de zombies un film qui parle de lutte. Parce que justement, la thématique de Extreme Board Game cette année sera la lutte.
Mais là, Sébastien, moi, je comprends absolument rien. C'est quoi le Extreme Board Game?
Ah, mais pour ça, c'est fantastique. Je suis content que tu me poses la question. Je ne m'attendais pas du tout à ce que tu me la poses. Les Extreme Board Game, en fait, peut-être qu'Éric pourrait nous aider.
Ben, les Extreme Board Game, c'est une fin de semaine de jeu. Ça commence le samedi, ça va finir le dimanche. Lundi, c'est congé, donc les gens peuvent revenir tranquillement chez eux. Mais ça consiste à jouer à des jeux bizarres.
Bizarre. Puis là, on va commencer déjà par dire que c'est des jeux de société. Donc, oui. des jeux quand même que les gens connaissent. C'est du style Monopoly, mais version, je dirais, un peu plus éclatée. On a pu voir qu'il existe quand même à travers le monde et à travers le temps des jeux qui ont vraiment explosé puis qui sont complètement hors normes. Puis c'est ceux-là qu'on va jouer.
C'est ça.
Mais dis-moi donc, Eric, c'est quoi les jeux justement que tu vas proposer lors de cette soirée-là?
Moi, je peux pas parler de mon jeu que je vais proposer à cette soirée-là parce que c'est quand même une compétition. Tous les participants vont proposer des jeux qu'eux disent bizarres et on va voter là, pour le meilleur, là, pour remporter la ceinture. Là.
Bon, ben si tu veux pas le dire, moi je vais dire le mien que je vais apporter. J'ai demandé à un grand spécialiste du jeu, Jacques, de me donner le pire jeu qu'il avait dans sa collection. Et il y en a une méchante gang, quelques centaines sûrement. Et il m'a conseillé Star Wars épisode 1 3D Game. Donc,
un jeu de société, ça?
Un jeu de société. Donc,
ça va être dur à battre.
Oui, ça va être clairement très dur. Moi, je vais apporter en fait, mon coup de cœur de l'année.
C'est
Maximal Sumo.
Ah, trop facile.
Mais ça fait toujours plaisir. En tout cas, Eric, merci beaucoup de nous accueillir à Rouen. On va juste rappeler les dates. C'est donc cette fin de semaine. Et puis, ça commence vendredi soir avec le Zombie Fest.
C'est ça.
Puis après, ça se poursuit évidemment toute la journée du samedi et pour ceux qui sont vraiment dedans, toute la nuit du dimanche, enfin toute la matinée du dimanche. Puis ensuite, retour pour les autres comme nous qui venons de Québec et qui avons 9 heures à nous taper.
Oui, c'était parce que c'était à Rouyn-Noranda. Peut-être que tu peux dire ton adresse, peut-être, Eric, aux auditeurs.
C'est le 53 Bernard à Évin, en fin de compte. On dit Rouyn, mais c'est un petit village juste à côté. Puis sinon, sur le site web de Puissance Maximale ou sur le site web de mvmf.net, il y a toutes les informations avec les adresses là pour se rendre.
Exactement. Je te remercie, Eric, de nous avoir partagé tes lumières à ce sujet.
De rien.
Ciao. Et sinon, on va aller faire un petit quiz acquis, n'est-ce pas? Il y a un petit jingle qui devrait partir en ce moment même. Et ça, ça s'appelle du professionnaliste, messieurs, dames. On a beau faire de la radio communautaire, c'est pas grave. On fait de l'excellent job quand même. Donc, le quiz acquis cette semaine. Vous devez répondre à une question assez stupide comme d'habitude. Et vous allez gagner le jeu de plateau de Cap et d'Épée, distribué par Philosophia, un CD de Normand Lamour et évidemment... un acquis. Et ça, ces prix-là, vous allez devoir aller chercher à Sequoia, sur la côte d'Abraham, pour le réclamer. Donc, la question est la suivante. Combien y a-t-il de syllabes dans le mot Bourgogne? Combien y a-t-il de syllabes dans le mot Bourgogne? Ceux qui connaissent la réponse à cette question peuvent appeler au 529-9026, 529-9026, et ça va nous faire plaisir de prendre votre numéro de téléphone en note et de vous le donner quand vous allez venir le chercher. Sinon, on s'en va en musique.
Mettez la puissance maximale.
Puissancemaximale.com. Bonjour, je suis Fredon et j'écoute Puissance Maximale.
Donc, nous sommes de retour à Puissance Maximale et maintenant, on va vous faire entendre un petit reportage que notre reporter Sébastien Léonard nous a fait en direct de Ubisoft et ça parle de musique de jeu.
Pas déjà entendu le thème du jeu Mario Bros. Si vous faites partie de ces personnes qui associent encore ce type de musique aux jeux vidéo, eh bien sachez que les choses ont bien changé. Il est loin le temps où les consoles de jeux vidéo ne possédaient qu'un convertisseur analogique de 8 bits et où les morceaux monophonique devait être transcrit en code de programmation par un développeur qui souvent n'avait aucune expérience musicale. À l'heure actuelle, la musique fait partie intégrante de la conception d'un jeu et des artistes renommés n'hésitent plus à composer des bandes originales pour ce support, comme ils le feraient pour un film. C'est ainsi que pour ses dernières grosses productions, Ubisoft s'est assuré les services de grands noms de la musique, tous styles confondus. De Marilyn Manson pour le jeu d'action-aventure Code Fear, Hammond Tobin, une pointure de la musique électronique, et Lalo Schifrin pour le jeu d'espionnage Splinter Cell 3, ou encore Peter Gabriel pour Myst 4. Tous ces artistes font partie à l'heure actuelle du succès des jeux vidéo. Et la musique, qui était le parent pauvre de ces productions, est devenue une partie importante de la conception des jeux modernes. En particulier, le sound designer, véritable maître d'œuvre de la musique des jeux vidéo, a pris une place prépondérante dans la conception des jeux, comme nous l'explique Aurélien Bagger, sound designer chez Ubisoft à Québec.
Sound designer a une place de plus en plus importante parce que les nouvelles consoles un peu plus de place au niveau qualitatif au son, on commence à avoir du 5.1 sur les consoles next-gen, enfin. Donc là, on se rend compte au niveau des productions que la trame sonore devient vraiment, vraiment importante, que ça fait partie de la note globale des reviews des jeux vidéo dans les magazines spécialisés, qu'elle est importante. Donc au niveau de l'équipe de production, c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était difficile de se faire entendre, puisqu'il faut savoir que nous, au niveau du son, on est le dernier intervenant, on est en bout de chaîne, c'est au moment où le jeu est quasi à la fin de production que nous, on commence réellement à finaliser notre travail. Et c'est vrai que depuis quelques années, c'est un petit peu plus facile de se faire entendre et on est vraiment beaucoup plus intégré aux équipes dès le départ maintenant. Alors, avant, on attendait la fin, on disait « Ouh, il nous faut du sang sur le jeu ». Maintenant, c'est dès la conception, dès le départ du jeu qu'on nous appelle pour être aussi là à la pré-production et à la conception du jeu, tout simplement.
Si le sound designer n'est pas mandaté pour composer la musique, il possède une formation musicale classique qui lui permet d'assurer la direction artistique au niveau audio. En particulier, c'est lui qui choisit les compositeurs.
C'est quand on choisit un compositeur, on choisit pour sa capacité artistique, mais aussi pour sa capacité de production. Il faut voir si la personne va être capable de remplir les conditions qu'on lui donne, c'est-à-dire de composer une heure et demie de musique, parfois dans des termes très courts. Des fois, on a des plannings qui sont très serrés. Et puis, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur quand on choisit un compositeur, qu'on commence à le faire travailler. Si ça ne marche pas, c'est difficile de changer parce que notre planning ne le permet plus, puis parce qu'on a lancé, la machine là-dessus. Donc, c'est toujours difficile et ça met du temps en général de choisir un compositeur.
Est-ce qu'on t'envoie des démos ? Est-ce que c'est les artistes qui viennent te voir, qui viennent chez Ubisoft ?
Oui, de plus en plus. En fait, ça commence. Il y a quelques années, c'était vraiment pas le cas. C'était vraiment nous qui allions chercher les compositeurs. Là, il y a de plus en plus de groupes de musique qui nous envoient des démos, qui nous contactent directement. C'est assez plaisant. Ça nous permet de, même si on peut pas tout de suite répondre positivement, parce que c'est pas souvent on reçoit une démo qui correspond pas du tout au style de musique qu'on va utiliser dans la production actuelle. Mais en fait, chez Ubisoft, on se fait une banque, entre guillemets, de compositeurs. Chaque fois qu'on a un nouveau contact avec une nouvelle démo, on met ça sur notre banque. Et puis, on sait qu'on a ce contact-là éventuel. Ça ouvre des possibilités. Parce qu'il y a pas mal de jeux qui utilisent des musiques de un peu rock, un peu actuelles. Notamment des jeux de sport, ce genre de choses, qui sont assez ouverts sur des musiques très... très large au niveau des styles. Et on en reçoit de plus en plus, je dirais jusqu'à peut-être maintenant 2 ou 3 par mois.
Si le son et la musique sont devenus une partie importante de la conception des jeux vidéo, elles s'insèrent dans un ensemble et leur importance varie en fonction des projets.
En fait, là, tout dépend de la taille de la production, de la plateforme, en fait, parce qu'en fait, on a des équipes en fonction des plateformes. Par exemple, une équipe qui va développer un jeu sur une Xbox 360 va être plus importante qu'une équipe qui développe sur PSP, forcément, parce qu'au niveau du scope de l'audio, c'est beaucoup plus élevé. Ça dépend, ça m'est arrivé de travailler dans des équipes, on était 5-6, c'est pas, y a pas vraiment de restriction, pas de 50 non plus, parce que ça servira à rien, mais en général, 2-3 personnes, parce que dans l'équipe audio, c'est vrai qu'il y a aussi il n'est pas présent, mais on a aussi notre programmeur spécifique audio, qui est là rien que pour nous, qui nous aide à intégrer certaines choses qui ne sont pas intégrables différemment dans un jeu que directement dans le code du jeu, ou à nous faire des outils tout simplement. Donc en général, on a un audio designer, un sound designer, un programmeur audio et un intégrateur, voire deux, en fonction de la charge de travail qu'il y a en fait.
Non seulement la musique des jeux vidéo a pris une part de plus en plus importante dans le plaisir du jeu, mais en plus, elle est en passe de devenir une partie intégrante de la culture du 21e siècle. Chantal Cloutier, directrice du marketing chez Ubisoft Québec.
Je dirais qu'il y a quelques années, dans le jeu vidéo, c'était vraiment que des artistes de jeux vidéo. Puis maintenant, avec l'évolution du jeu vidéo, on se rend compte que le jeu prend une place de plus en plus importante dans le domaine culturel, dans le divertissement dans son ensemble. Et on voit beaucoup d'interrelations avec le cinéma, la littérature, la musique, en fait, tous ces modes de divertissement-là. Et je pense que on bonifie chaque médium avec justement ces relations-là. Maintenant, il y a des films qui sont basés sur des univers de jeux. Il y a des jeux qui sont basés sur des univers de films. Même chose avec la littérature. Il y a des acteurs qui prêtent leur voix à des personnages de jeux vidéo, ce qui ne se faisait pas vraiment dans le temps. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment intéressant. Puis, je pense que ça va se voir encore de plus en plus au cours des prochaines années.
Alors, les jeux vidéo comme lien social et culturel, l'avenir nous le dira. C'était Sébastien Léonard pour CKR.
Maximal Sumo. Fin.
Et voilà, c'était Isaac. On a juste écouté la fin. Est-ce que tu veux le remettre, Sébastien, peut-être?
Bonjour, je m'appelle Isaac. J'aime beaucoup Maximal Sumo. Fin.
Et voilà, qu'est-ce que c'est Maximal Sumo? Ben, c'est un petit jeu qui est disponible dans le numéro 1 de Puissance Maximale. Et nous sommes de retour à Puissance Maximale. Je suis François Gécouillard. Sébastien Léonard est avec nous. Mais on vient d'avoir avec nous Mathieu Place qui vient nous rejoindre dans ce grand banquet de Bourgogne.
Bonjour. C'est dur là, de me faire lever à chaque deux semaines pour sortir de mon sous-sol puis venir ici à l'émission faire ma petite chronique. Là. Mais bon, je commence à y prendre goût là, tranquillement. Là. Je commence à supporter un peu mieux le soleil. Fait que, en tout cas, ça fait plaisir d'être là. Dans les deux dernières semaines, j'ai joué à deux jeux en particulier. Deux jeux très difficiles à trouver sur Nintendo.
J'ai joué pendant deux semaines à ces jeux-là dans ton sous-sol et tu sors aujourd'hui pour nous en parler.
Oui, c'est ça. Ben, tout de suite après, je vais retourner pour essayer de battre mon score dans les jeux en question là, parce que, en tout cas, là, j'ai vraiment accroché à ces jeux-là. Le premier s'appelle Opération Secret Storm. Bon, vous vous souvenez peut-être... Oui, c'est ça. Orage secret. C'est ça, si vous vous souvenez, à l'époque de Nintendo, il y avait un saut de qualité qui était promulgué par Nintendo pour montrer que les jeux avaient une certaine qualité, un certain niveau de qualité. Mais il y avait des jeux qui n'avaient pas atteint ce niveau de qualité-là. Il n'y avait pas le saut, mais ils sortaient quand même. Alors, Opération Secret Storm, c'est un de ces jeux-là en particulier. Ça a été réalisé en 1990 et puis... Le sujet du jeu, c'est la guerre d'Irak, la première guerre au Koweït. Là, si
c'est par Bush père.
Par Bush père, mais justement, c'est le héros de l'aventure. Bush père est le secret hero. Là. Il est en mission secrète en Irak et puis il va combattre l'Irak, si vous voulez. Mais bon, c'est pas seulement des soldats de l'Irak. Hein.
Il doit y avoir Saddam Hussein là-dedans?
Oui, Saddam Hussein, c'est le final boss, comme on dit. Ouais, c'est ça, c'est le final boss, mais d'ici à atteindre Saddam Hussein, il y a toutes sortes d'ennemis que vous allez rencontrer, évidemment des soldats irakiens, mais il y a aussi des chameaux volants, des diables, des extraterrestres, des nudistes, des lutteurs masqués, oui, ben...
C'est moral, donc c'est totalement
ben,
irakien.
C'est ça, oui, ben ils sont là avec un petit couteau, là, mais c'est pas mal juste des nudistes, là, ils se défendent comme ils peuvent, mais bon, c'est pas le bout des ennemis que vous allez rencontrer, il y a aussi des squelettes, c'est vraiment toute une panoplie d'ennemis, et puis ça donne une idée de... soit de l'imagination ou bien de la totale désinformation des designers qui ont travaillé sur ce jeu. Mais là, à la fin du jeu, vous allez rencontrer Saddam Hussein. Mais Saddam Hussein, il a toutes sortes de pouvoirs. Il peut cracher du feu. Il peut se transformer en hélicoptère. Puis là, bon, il crache du feu encore.
Il se transforme en hélicoptère.
C'est ça. Oui, oui. Ben carrément. Je ne sais pas si c'est un problème au niveau du jeu, là, mais c'est littéralement ça. Il se transforme en hélicoptère et puis bon, il va vous attaquer. Il a plusieurs vies. C'est vraiment un héros... Un ennemi surhumain. Là, si
sais-tu à quoi ça fait penser? Ça fait penser à Wolfenstein 3D,
oui.
Où dans une expansion, tu avais Hitler que tu pouvais affronter comme boss de la fin.
Je me souviens de ce jeu-là. Oui, effectivement. Puis il y avait deux gros canons sur les côtés. Là. Ben, c'est ça. C'est un peu bizarre moralement, mais ça fait tellement plaisir à jouer. Là,
ça défoule un peu.
C'est ça, ça défoule un peu. En fait, Color Dreams, qui est le producteur de ces jeux-là, ont fait toutes sortes de jeux. Je vais vous en nommer une couple d'autres. Bible Adventures, où vous jouez le rôle de Jésus qui se promène et puis qui va régler des problèmes là, dans son pays.
C'est pour ça que tu nous reviennes pour nous en parler.
Ah oui, déjà, OK. Ça va très vite. J'avais un autre jeu que je voulais vous parler.
Non, Bible Adventures.
Ah oui, Bible Adventures, oui, c'est ça.
Une chronique complète sur le sujet. Là.
Mais je vous dis, c'est des jeux qui sont très difficiles à trouver. Je suis vraiment content d'avoir trouvé Opération Secret Storm parce que quand on va sur Internet et puis qu'on fait des recherches sur la disponibilité de ces jeux-là, ben celui-là, c'est parmi les plus difficiles à trouver parce que justement, il n'y avait pas de saut de qualité. Aucun magasin voulait le vendre. Alors, c'est tombé dans la rareté. Là. Fait que, c'est une pièce de collection.
C'est une pièce de collection.
Est-ce qu'on paye
cher
pour les avoir, ces jeux-là?
Si vous êtes assez wise puis que vous allez dans les marchés aux puces, vous pouvez les trouver pour 5 $ évidemment. Mais si vous allez les chercher sur Internet et puis que le vendeur est moindrement informé sur la rareté du jeu, ça peut atteindre 100 $ là, pour ce genre de jeu-là. Mais si vous allez sur eBay, peut-être que vous allez pouvoir trouver ce jeu-là qui est vendu par quelqu'un qui ne connaît pas très bien le marché, puis vous pouvez le trouver pour 10 $ Fait que c'est vraiment intéressant de pouvoir.
Écoute, avant de passer à d'autres jeux, j'aimerais savoir c'est quoi les armes de George Bush?
Les armes de George Bush, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est qu'il y a juste ses poings. Oui, c'est ça, dans un monde de technologie très avancé et moderne avec des guns, tous les autres personnages ont des fusils. Mais George Bush pense qu'il veut ça pur, il veut ça à la Rambo, fait qu'il y arrive là.
À la Chuck Norris.
C'est ça, Chuck Norris, juste ses poings. Bon, évidemment, il peut recevoir plusieurs balles sur son corps, et puis au bout de 20 balles, il est encore debout. Il a ses poings, puis il réussit à régler le problème de l'Irak avec ses poings.
OK, sinon, peut-être une petite minute pour reparler de ton autre jeu.
Mon autre jeu, River City Ransom, qui est un jeu peut-être un petit peu plus facile à trouver, quoique plutôt rare, mais celui-là a reçu le fameux saut de Nintendo. C'est une espèce de Grand Theft Auto. J'ai pas vraiment joué à ce jeu-là, mais on m'en a parlé. Il y a trop de boutons pour ce genre de jeu-là. Écoutez, c'est River City Ransom, il y a deux boutons, le truc classique Nintendo, et puis il s'agit de tout simplement de se promener dans une ville sans contexte. On bat du monde, on ramasse leur argent, après ça tu t'en vas au magasin, t'achètes des hamburgers, des hot dogs, toutes sortes de nourriture, ça te rend plus fort, puis après ça, de retour dans la rue, abattre des méchants. Fait que je veux vous dire, il y a comme un manque de contexte, un manque de logique ici, et puis c'est ce qui fait toute la beauté du jeu parce que c'est immoral, ça complètement. Ils ont même pas essayé de mettre une morale ou de...
Mais qu'est-ce que Jean Charest dirait de ça avec le combat contre la malbouffe qu'on a dans nos écoles de nos jours? Hein? Il bannirait ce jeu-là à jamais.
Oui, effectivement. Hein? Tu manges un hamburger puis tu deviens plus fort. chercher l'erreur.
Écoute, je te remercie Mathieu. Tu restes avec nous. On va se diriger vers les nouvelles insolites juste après un petit jingle là, que Sébastien va nous avoir concocté.
Par la dame du lac, puisses-tu rester dans la vie infernale que t'as vu naître? Ah, enfin, l'objet de ma quête, le Saint Graal.
Pour choisir la richesse éternelle, va à la page 22. Pour la vie éternelle, page 3. Pour obtenir la puissance maximale, fais le 6.
Parbleu, moi mouflet de Montfleur, chevalier sans peur et sans reproche, je choisis l'or.
Tu es sûr? Sache que la puissance maximale t'apportera bien plus.
Ah oui?
Des chroniques, des entrevues, des nouvelles insolites sur le domaine du jeu, tu sauras tout sur les jeux de rôle, les jeux de société, les jeux vidéo et les grandeurs nature. Le tout est fourni par François G. Couillard et Sébastien Léonard.
Tu m'as convaincu, narrateur. C'est un rendez-vous. Puissance maximale tous les lundis, 17 h.
Bună ziua, mă numesc Andreea, sunt de la Fox Mind și îmi place Puissance Maximale.
Et nous sommes de retour à Puissance Maximale pour les nouvelles ludiques. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine du jeu cette semaine? Eh bien, savais-tu, Mathieu et Sébastien, que Zelda parle désormais québécois? C'est-à-dire...
C'est quoi ça, le québécois?
C'est une sorte de langue, si on veut. Ouais. En fait, il faut préciser, c'est le Link, en fait. C'est dans le jeu Legend of Zelda Phantom Hourglass, qui va paraître sur le Nintendo DS. Hein, ça, c'est une machine technologique là, très récente.
Je suis tout à fait perdu. Zelda,
donc,
je sais.
Donc, Link, qui est le héros de Zelda, et la princesse Zelda vont s'adresser dans une langue qui ressemble à entre le français international et le français québécois. Et là, je vais vous donner des exemplaires de ces phrases-là qu'ils vont dire. Et là, étant donné qu'on a un Français, on a la chance d'avoir un exemplaire de Français avec nous, Sébastien.
Mais quelle chance, oui.
Donc là, je vais te dire des phrases et tu vas essayer de deviner qu'est-ce que ça veut dire. Et ça, c'est des personnages...
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est des personnages de Legend of Zelda qui le disent. Donc, un fermier peut dire « J'ai pas bien été lucky avec mon potager. Tu ne voudrais pas t'en occuper pour moi? »
Ça, c'est sûrement que c'est un agriculteur, donc forcément, ça se passe pas bien.
Donc, il est quand même assez facile, celle-là. Mais j'en ai un autre qui est un peu plus corsé. C'est un espèce de mix entre l'argot français et du québécois. Et là, tu vas essayer de me dire qu'est-ce que ça veut dire. Touche un rocher pour le rapailler, puis tu n'as qu'à toucher un endroit quelconque pour l'y fronder.
Oui, en effet, là, c'est assez intense.
Je ne suis même pas sûr de comprendre moi-même.
C'est sur la Nintendo DS, wow. Donc vous allez pouvoir vous la procurer.
Mais qu'est-ce qui se passe? C'est des personnages particuliers du Québec?
Je ne sais pas, ça a été Link, drôlement
va au Québec. Ah, oh, OK.
Oui, puis pour récupérer de l'énergie, tu dois manger de la poutine. Ce qui est toujours une très, très bonne chose.
C'est logique, c'est tout à fait logique.
Oui, moi, dans le monde bizarre des geeks, je vous avouerai que quelque chose qui m'a vraiment interloqué. Je me suis rendu compte que très récemment, à Manhattan, en fait, venait de s'ouvrir l'Ordre Jedi, un nouvel Ordre Jedi, un temple dédié à ce fameux, je dirais, c'est pas une religion, mais c'est quasiment une religion.
Oui.
Encore que, il me semble qu'il n'y a pas si longtemps que ça, lors d'un recensement en Australie, la troisième religion la plus citée était Jedi.
C'est sûr que s'ils mettent Jedi à cocher sur le formulaire, ça doit être tentant de...
Non, c'était plutôt dans la version autre.
Ah,
Jedi.
D'accord, autre Jedi. D'accord.
Depuis que maintenant, ils l'ont rajouté, exactement.
Bon, ben c'est génial. Je ne sais pas si on va avoir droit à des crédits d'impôt avec une religion comme ça. Donc, je pense que c'est déjà le temps est passé. Donc, on va faire un petit jingle. On va aller à l'agenda ludique de la semaine.
Et c'est parti.
Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale.
C'est assez fort quand même. Il faut quand même raconter l'histoire de ce Frodon-là.
C'est le vrai Frodon.
Ben, je reconnais sa voix. Oui.
Nous l'avons rencontré. D'ailleurs, il est beaucoup plus grand que ce qui paraît sur les photos. Là. D'habitude, on le voit comme un tout petit gars, là, mais finalement, il fait 2 mètres.
Avez-vous vu ses pieds? Est-ce qu'il a enlevé ses chaussures pour
non.
voir?
Non, mais ses oreilles étaient conformes, par exemple.
Ah, d'accord.
Il y a une photo sur le site puissancemaximale.com. Vous pouvez aller le voir se bagarrer contre un autre individu, probablement un humain mal léché. Donc, c'est l'agenda ludique. Donc, qu'est-ce que tu veux faire, toi, le jeune? Tu veux sortir de ton sous-sol cette semaine et tu veux aller t'amuser un peu? C'est très simple. Comme d'habitude, tous les lundis à l'Astradamus, ça, c'est un bar sur la rue Couillard à Québec. Il y a des parties de jeux de plateau. Ça coûte pas cher. Tu apportes ton jeu ou tu l'apportes pas et tu peux aller jouer avec une bande de jeunes fous qui sont déjà sur place. Sinon, demain, mardi, il va y avoir des parties de Go au Café Aga. Ça, c'est au 600 Boulevard Charest. Et sinon, en fin de semaine, à partir de vendredi, vous pouvez aller au Seigneur de la Guerre dans le sous-sol du pavillon La Certe. Il y a un paquet de bons geeks qui jouent sans arrêt. Et sinon, évidemment, en fin de semaine, qu'est-ce qu'il y a? Les Extreme Board Games,
bien sûr. Ça
serait
difficile de passer à côté, hein? Surtout si vous passez par Rouyn-Noranda, n'hésitez pas à venir nous voir.
C'est 9 heures de route, mais quand même, ça vaut la peine. Vendredi, samedi, ça va être le Zombie Fest 3, suivi du Extreme Board Game. Donc, on va mélanger des jeux de plateau avec de la boisson. Ça va être une orgie de jeux totale. Et ça va être très
party assuré toute la soirée.
Est-ce qu'on va t'y voir, Mathieu?
Dans le coin de Rouyn-Noranda, peut-être difficile, mais je vais essayer de faire un petit saut. Est-ce que ça se fait dans un sous-sol ou c'est vraiment un gymnase?
Je pense qu'il va falloir que tu sortes dehors.
Peut-être à l'extérieur.
La voiture,
oh, OK. Mais il y a de la boisson, ça peut toujours me faire oublier mon propre sous-sol. Mais c'est sûr que la stratégie est un peu plus difficile à mettre sur place là, une fois que la boisson est entrée dans le corps du monde. Oui,
c'est ça. Donc la stratégie prend le bord des fois, peut-être un peu. Donc, c'est déjà la conclusion de cette émission, n'est-ce pas? Donc, peut-être qu'on aura le temps pour une petite pièce musicale avant de se quitter. Est-ce que tu es bien, Sébastien?
Ah, voilà. Little harmonica. I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew.
I got a big broad sword made out of cardboard, and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night we turn on the black light.
Donc c'était Puissance Maximale, c'était François Gicouillard au téléphone, au micro, n'est-ce pas? Une chose qu'on appelle un micro. Sébastien Léonard, et on remercie Éric Raymond qui a appelé, et Mathieu Place, bien sûr, notre chroniqueur jeu rétro. Vous pouvez aller voir son site internet, mathieuplace.com. Il y a un petit jeu génial pour pouvoir voir ses dessins. C'est de toute beauté. Sinon, on va se laisser et rester à l'écoute. Ça va être l'émission Homologue de magazine, votre magazine gay.
Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school.
No, we're not.
I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end.
Whoa. You got a girlfriend?
Yeah. No.
It's the end. Warriors who terrify, it's D&D, virgins till the day we
one, two, three, four, die.
Comment ça va, Mark Hamilton? Comment ça va, Mark Hamilton? Comment ça va, Mark Hamilton? Est-ce que t'as pas encore les années? Tu as merdé ton succès qui t'a porté que des regrets. Et si tu recommencerais, dis-moi. Et si tu recommencerais, dis-moi. Le show-business t'a repoussé dans le jeu, tu n'es pas entré. On s'est amusé à te faire tomber et ça t'a pratiquement tué. Les places sont-elles refermées, dis-moi. Les places sont-elles refermées, dis-moi. Comment ça va, Mark Hamilton? J'entends encore ta voix qui résonne. Comment ça va, Mark Hamilton? J'entends encore ta voix qui résonne. Comment ça va, Mark Hamilton? J'entends encore ta voix qui résonne. Comment ça va, Mark Hamilton? J'entends encore ta voix qui résonne. Presque impossible d'y entrer, à moins de vouloir se prostituer pour peut-être vivre de ce métier. Alors comment vouloir entrer, dis-moi. Pourquoi vouloir continuer, dis-moi. Bien sûr, à force de lutter, tu finiras par y arriver. Quand tout sera cicatrisé, tu n'auras plus à exorciser les démons qui t'ont toujours hanté, c'est ça. Les démons qui t'ont toujours hanté, c'est ça.
Devenez membre de Radio Basseville, CKIA FM 88,3. Vous croyez à l'importance des radios communautaires et d'une presse libre?
Devenez membre. La centaine de réalisatrices et réalisateurs bénévoles qui vous informent et